Je voudrais rappeler que l'alcool est consommé avec modération. Ah, une règle que tout le monde respecte, évidemment.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir!
La musique est incroyable, ça me fait plaisir à tabarnak, là!
Ils sont chauds, ils sont bons!
Studio, vous êtes toujours sur l'Happy Hour 21h-22h, le mercredi, sur la meilleure radio du Mans, l'Happy Hour, la radio Alpa.
Évidemment,
évidemment. Oui.
Oui. Vous tu mélanges tout, tu mélanges tout.
J'ai fait une petite feinte, non, c'était, j'ai feinté, c'est différent. Okay. Bon, du coup, est-ce qu'il serait temps un petit peu pour un petit maître de questions là?
Exactement, est-ce qu'on mettrait pas parti, un petit patron. Jingle qu'on aime tant, Théo?
C'est parti.
C'est parti, allez.
Patron, un mètre s'il vous plaît.
Et un mètre de questions pour la 2.
Santé.
Un mètre de questions sans modération.
Alors, bienvenue, bonsoir dans un mètre de questions. Donc ce soir, on invite le Manoir aux Histoires. Bonsoir, le Manoir aux Histoires.
Bonsoir.
Bonsoir, les jeunes.
Eh oui, donc dans un mètre de questions, on a le plaisir d'accueillir Éline et Céline du Manoir aux Histoires. Bonsoir.
C'était encore planté.
Presque, c'est presque.
Éline et Céline.
Alors, Éline, ma petite sœur s'appelle Éline, donc c'est totalement seulement pour ça que... Éric et Céline.
C'est Éric.
Alors, bon, je crois qu'il y a un problème.
Quelle voix féminine tu as, mon chéri?
Bon, on peut le faire.
Je crois qu'il y a vraiment...
Éric et Céline.
Non, moi, c'est Éline.
C'est trop tard, maintenant il est renommé.
D'accord.
Bon, c'est
bon.
Bon, à part ces petites erreurs, comment ça va ce soir?
Mais on est très contents.
Nous, ça va, vous, je sais pas.
Moi, je suis fatigué. Peut-être, c'est peut-être ça, je pense.
Mais non, mais non.
Non, ça se mérite. On est content d'être là. C'est un sacré
c'était
périple
quoi, la question
d'arriver jusqu'ici. Il faut grimper jusqu'au sommet de la butte du Mans, le parvis de la cathédrale, enfin presque en haut. Et puis hop, après, il faut encore monter 3 étages. Mais c'était prédestiné parce qu'après avoir cherché une place pendant presque une demi-heure, on s'est garé dans un parking dont toutes les colonnes étaient ornées de créatures mythologiques. Vous saviez que vous aviez un parking sur le thème des légendes dans les tréfonds du Mans?
Bah du coup non.
Pas du tout.
Eh bien.
Les seules personnes qui ont le permis,
les auditeurs à aller dans les parkings des moments.
Les seuls qui peuvent être au courant.
Aller visiter le parking.
Il y a des diables, des sirènes, magnifiques sirènes.
Ouais, pas qui est l'auteur, mais bravo à lui ou l'autrice.
Ça rajoutera des idées visites pour nos spectateurs.
Voilà, j'ai mis la petite touche qui invite.
C'est génial.
Donc vous pouvez répéter la question.
Bon, bah, il n'y a plus de questions, du coup. Il n'y a pas encore de questions. Ça y est, c'est fini. Non. Bon, je propose qu'on vous présente un petit peu rapidement, nous. Nos deux comparses du Manoir aux Histoires.
Alors, le Manoir aux Histoires, c'est un projet à votre initiative, Céline et Eric, qui a pour but de mettre à l'honneur nos histoires de contes de fées jusqu'aux jeux de rôle à thème, grâce à des activités diverses, spectacles, ateliers, projets artistiques, que sais-je. Vous nous proposez de découvrir ou redécouvrir les légendes d'autrefois, la construction d'un univers créatif, l'échange avec des lieux et des personnes. Qu'est-ce que j'oublie? Qu'est-ce que vous ajouteriez à tout ça?
Vous avez combien de temps?
On y...
C'est non, mais tu as dit principal. Hein, c'est vrai que
oui, voilà,
depuis c'est... un certain nombre d'années maintenant, on fait revivre un peu les contes et légendes, et principalement du Perche, hein, la légende percheronne. Et c'est Céline qui s'est collée il y a un certain temps, qui a fait un travail de collectage, de bibliographie pour... découvrir et redécouvrir ce folklore, ces légendes qui c'était en passe d'être oubliées. Et aujourd'hui, donc, on peut se vanter d'avoir une bonne vingtaine, si ce n'est même un peu plus, de légendes qui ont été ravivées, ramenées à la vie, qu'on a, que Céline a réécrites, qu'on a... tu en parlerais mieux, Céline, parce que c'est quand même ton boulot. Ouais,
qu'on a restauré sous forme de chante-fables, c'est-à-dire qu'on les compte à la manière des troubadours du Moyen-Âge, en les chantant, en les comptant, et puis en les mettant en musique. Nous, ce qui nous tient à cœur, parce que Eric est originaire du jeu vidéo, de la musique, enfin, il est compositeur pour la télévision aussi. En fait, ce qui lui plaisait au départ quand il s'est lancé dans le jeu vidéo, c'était de joindre ses deux passions, la musique et l'imaginaire. Et moi aussi, j'ai un univers assez polyvalent. Je suis illustratrice, graphiste, conteuse, auteure. Donc du coup, on s'est dit, et pourquoi pas récupérer ces antiques légendes et les restaurer aujourd'hui en mode transmédia, donc en variant les moyens de diffusion, afin de les rendre à un public toujours plus large. Et ça marche. C'est vrai qu'il y a une véritable émulation autour de ces légendes. L'intérêt des légendes aussi, donc on restaure davantage les légendes que les contes. Hein. C'est vraiment des légendes. Alors, peut-être qu'il est important de stipuler quelle est la différence entre contes et légendes. Donc les contes,
oui, c'est une bonne idée.
Appartiennent entièrement à l'imaginaire, ils ne relèvent d'aucun lieu. Et on ne sait pas quand est-ce que les histoires se sont passées. Alors que les légendes, eh bien, on dit que les légendes sont à mi-chemin entre imaginaire et réalité. En effet, on sait exactement où elles prennent racine. Donc souvent dans des prieurés, des vieux châteaux, des villages. Et on sait aussi à peu près quand est-ce qu'elles se sont déroulées. Donc c'est très intéressant, parce que dans les histoires qu'on a restaurées, donc un peu, on dit qu'on est des archéologues de l'imaginaire perdu. On va dans les bibliothèques, on exhume des bouquins qui ont parfois plus de 100 ans, on repart de travaux d'ethnographes, donc il y a une certaine authenticité, mais on redonne à toutes ces histoires leur dimension merveilleuse, magique, et on va inviter les gens à aller découvrir ces histoires sur les lieux où elles se passent, et ça marche. Souvent à l'issue d'un spectacle, les gens partent en quête de ces lieux et vont visiter une région de manière complètement différente. Ils vont porter un nouveau regard, réenchanté sur les régions.
Moi, je voudrais préciser, si on a fait ça aussi, c'est parce que bon, il y a une dizaine d'années, on s'était rendu compte, parce que Céline notamment a travaillé comme professeur d'art plastique dans un collège dans le Perche, on s'était rendu compte que les enfants, les collégiens, connaissaient pas les légendes du coin. Et bon, ils connaissaient bien Harry Potter, Spider-Man, enfin les Marvels, etc. Mais ils ne savaient pas qu'à deux pas de chez eux, peut-être même chez eux dans leur longère percheronne, il y avait une histoire qui s'était passée, une histoire de fantômes, une histoire de dragons, une histoire de trucs bizarres. Et tout d'un coup, dès qu'ils ont découvert l'existence de ces légendes, ils avaient vite fait d'oublier Harry Potter et Spider-Man. Et nous, c'est un peu notre credo, c'est vraiment de faire revivre ces légendes aussi pour les transmettre à ces générations en fait, qui oublient tout ce folklore, ces trucs incroyables qui se passent dans les campagnes françaises et dans les villes aussi. Hein. Donc ça, c'est vraiment notre passion, ce qui nous motive, hein. C'est de faire à nouveau rêver les enfants, les ados et les petits et les grands-enfants, on va dire, avec toutes ces vieilles légendes, quoi.
En tout cas, moi, je trouve que c'est super comme initiative. Mmh. Enfin, je sais pas vous, mais moi, je...
Alors, petite question par curiosité, peut-être que vous connaissiez, mais c'est juste pour savoir votre avis. Petite question annexe, parce que moi, je suis pas du tout dans le...
Nous prend notre interview, en plus, n'importe
exactement.
Quoi.
Je vous en dis pas Est-ce trop. Que, par hasard, vous connaissez Légendex ?
Le Légendex. Ça me dit quelque chose. Est-ce que tu peux juste me donner quelques indices ?
C'est une application qui existe depuis bientôt un an, qui est faite par un YouTuber que j'apprécie énormément, qui s'appelle Didi Chandoudoui, et qui consiste en réunir tous les lieux insolites de France liés à une légende.
Ah, mais c'est extraordinaire. Mais
ça permet de visiter la France d'une manière différente.
Joué,
c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
Ouais, c'est vrai.
On va aller voir. Ça rejoint
Merci
complètement le projet qu'on a pertinent. Développé dans le Perche. Parce que quand on dit qu'on restaure toutes ces légendes en mode transmédia, donc évidemment, il y a les histoires, les spectacles, il y a des livres, il y a des CD. Il y a des aventures interactives, par exemple, dans toute cette période un peu tristoune du Covid où on n'avait plus le droit de se produire en public. On a été contacté par le domaine de l'abbaye de Thiron-Gardet et eux, ils se sont lancés. Alors, il faut savoir que Thiron-Gardet est le fief du roman de Renard, donc une très vieille légende du Moyen-Âge.
Oui.
Et donc, ils nous ont demandé de restaurer cette légende du roman de Renard, un épisode en particulier qui se passe juste au domaine de l'abbaye. Et on a fait une aventure interactive et audio, où on pouvait se promener dans le domaine de l'abbaye via des QR codes et revivre une aventure contée. Donc en fait, donc au niveau transmédia, on va faire plein de choses. Et donc il y a la carte du Perche légendaire, où on répertorie toutes les légendes qu'on a déjà restaurées. Donc ça, c'est en projet avec les différents offices de tourisme du Perche. Et on va pouvoir justement partir à l'aventure dans le Perche sur le thème des légendes. Et chaque petite ville en ce moment du Perche se pose la question de comment elle pourrait justement faire un point d'intérêt légendaire, par exemple la Butte Malbrun, dont on va peut-être passer un extrait tout à l'heure, donc raconte que le trésor du diable est caché dans le Perche, donc très exactement à Longny au Perche. Et ils ont prévu, parce qu'ils savent exactement les Longniciens, où se trouve la Butte Malbrun, et donc où on pourrait aller s'enrichir sans foi ni loi, en dérobant le trésor du diable à ses risques et périls.
Attention, donc, parce que j'y vais quand même dans deux semaines là.
Ah, là, tu vois, mais normalement, la chose ne peut se produire que le soir de Noël.
Sûr,
donc, deux semaines, ce sera trop tôt ou trop tard.
Ah, on va attendre Noël. Hein.
Et donc, ils vont peut-être créer une statue ou une enquête ou quelque chose autour de cette légende. Donc, petit à petit, donc non, je ne connaissais pas le Légendex pour te répondre, Alexandre, on va aller voir. Et je pense que les idées sont dans l'air et qu'en ce moment, on a tous vraiment besoin d'avoir un monde un peu plus fantastique.
Oui, c'est vrai.
Et du coup, les contes et légendes ont leur expansion a été drôlement freinée quand même en France, parce qu'il y a ce côté rationaliste français qui vit souvent à reléguer, non c'est vrai, sérieux, les contes et les légendes au rang d'histoire pour les enfants. Alors que c'est tout sauf ça, hein. Ce sont des histoires transgénérationnelles qu'on se racontait au coin du feu avec tout autant les jeunes enfants que les anciens et les adultes. Donc,
en son temps, Walt Disney, qui s'est accaparé des vieilles histoires, qui l'a transformé, dont il a changé la fin. Parce que la plupart du temps, La Belle au Bois Dormant ou Blanche-Neige et les Sept Nains ont des fins, ou même c'était quoi, Alice au Pays des Merveilles. C'est pas du tout ça que ça raconte. Ouais,
ce sont pas du tout des histoires pour les enfants.
Non, c'est un peu triste.
C'est vrai que Walt Disney a beaucoup édulcoré ses histoires. Il en a fait quelque chose de très très beau. Mais il y a toujours des happy ends, alors que les légendes, la plupart du temps, finissent mal.
Et c'est un peu comme les comptines aussi. C'est un peu pareil, la même idée.
Mmh. Mais oui, parce que ce sont des avertissements.
Et oui.
Et pour le coup, je ne sais plus où j'en étais. Donc je te rends la parole.
On propose qu'on reprenne le fil de notre interview du coup.
C'est ça.
Alors moi je vous propose de faire une petite présentation de nos deux troubadours ménestrels. Alors par qui commencer ? Eh bien je dirais plutôt les femmes à l'honneur, ou les dames à l'honneur,
ah oui,
ou les gentes demoiselles à l'honneur.
À moi.
Alors donc, qui sont cette gentes demoiselles ? Eh bien il s'agit de Céline Cardo, alias Célinis. Alors elle a commencé par être graphiste dans une agence de publicité parisienne et se passionne de plus en plus par le monde de l'illustration, de la photo, la vidéo. Alors d'après ce que j'ai pu en lire, en 2006, c'est la révélation. Eh oui, mais bien sûr, l'important sont les histoires. Hein. Ce qu'on peut lire sur votre site, hein. J'ai beaucoup aimé la citation.
Tu sais tout.
Donc Céline, tu te formes donc au métier de conteuse au conservatoire Paul Ducasse, donc, qui est très, très joli bâtiment. J'ai regardé dans le 12e, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça.
tu crées avec tes amis ta propre troupe qui s'appelle... Des tout conti, une troupe de conteurs. Et alors, en 2009, il y a une aventure qui serait dans le perche avec différentes réalisations, représentations, notamment le festival légendaire, les rendez-vous au jardin, les ateliers au manoir, il était une fois la perche légendaire, et on a aussi la création du manoir aux histoires en 2009. Et donc, voilà, c'est comme ça que tu es devenu Céline, la voix du manoir. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à nos auditeurs sur ton personnage ?
Oui, on peut peut-être parler du nom de la compagnie. Pourquoi le manoir aux histoires ? Parce que le manoir, le Perche est une terre de manoir. Et que finalement, quand on est arrivé dans le Perche, on s'est dit « Ah, et si le manoir devenait un lieu où toutes les histoires seraient à l'honneur, où on pourrait organiser toutes sortes d'événements, et pourquoi pas un festival ?» Et finalement, chemin faisant, on s'est dit que c'était quand même pas très léger de gérer un lieu comme celui-ci et que nous, on voulait rester justement dans les éthers, le côté un peu dans les mondes imaginaires. Et donc, on a coutume de dire aujourd'hui que le manoir aux histoires apparaît selon le bon vouloir du rêveur. Et donc, c'est vrai qu'on a ce côté matériel, on peut se matérialiser partout et faire vivre ces mondes imaginaires selon le bon vouloir.
On peut rêver à chaque endroit. On peut rêver à tout endroit de la perche, du coup. Du perche, c'est ça qu'on, c'est comme ça qu'on
le
dit.
Perche,
c'est le perche.
Le perche, ouais. Moi, je suis pas de la région, je connais pas.
Il y a rien de l'est de la France, la perche. Bon, et puis en ce qui concerne Eric, quel impressionnant curriculum, toujours dans la musique et depuis très tôt. Vous racontez sur votre site dès 15 ans rock'n'roll attitude avec les Daltons, puis ensuite les Dodge Vegomatic. Et en parallèle de votre carrière solo, vous employez des guitares, des batteries, mais aussi mandolines et autres guitares luthes. Et puis en parallèle de tout ça, comme l'a dit Céline tout à l'heure, les musiques de jeux vidéo, de parcs d'attractions, vous êtes bruiteur et j'en passe tellement. Vous dites vous-même que ces expériences et ce projet vous permettent de conjuguer vos deux passions, les mondes imaginaires et la musique, mais quand est-ce que vous dormez ?
Bonne question.
Plus beaucoup ces dernières années. Hein.
Non, mais c'est vrai que moi, je suis fasciné, passionné par tous ces univers depuis que je suis tout petit. Hein. Moi, j'ai commencé, je ne sais pas si vous connaissez, par les livres dont vous êtes le héros.
J'en ai lu quelques-uns.
Un truc qui me rendait fou quand j'étais petit et ça m'a ouvert ce monde du jeu de rôle ensuite, en découvrant mon premier jeu de rôle qui était L'Œil Noir, qui était sorti dans les mêmes collections, c'était Folio Junior, que les livres dont vous êtes le héros à l'époque. Et pourtant à ce moment-là existait déjà Donjons et Dragons, mais moi j'ai connu à travers L'Œil Noir, qui est un jeu de rôle allemand qui était pompé sur Donjons et Dragons, quoi.
D'accord. C'est vrai
que bon, mais j'ai pas joué très longtemps parce qu'après j'ai découvert Stormbringer, ceux qui connaissent.
Oui, moi je connais.
L'adaptation en jeu de rôle des bouquins de Michael Moorcock, qui est un auteur culte anglais d'heroic fantasy, de dark fantasy même. Et bref, voilà, tous ces univers, le jeu de rôle, et puis le jeu de rôle en grandeur nature aussi, parce qu'avec Céline, depuis longtemps aussi, on en fait en grandeur nature. Ce qui nous a amené petit à petit, on va peut-être en parler tout à l'heure, à rencontrer le créateur du parc d'immersion rustique. Julien Prévost-Merlin, si tu nous entends, je t'embrasse.
On c'est le grand amour entre eux.
Et on l'embrasse ici, bien sûr, tout le monde l'embrasse.
Tout le monde t'embrasse, ah, ouais. Julien.
Et vraiment, bon, peut-être qu'on en parlera après, mais c'est vrai que voilà, ça c'est aussi un point de convergence entre, que ce soit pour Céline ou pour moi, entre toutes nos passions, quoi. La musique, le jeu de rôle, les mondes imaginaires, les jeux de rôle grande nature, etc., etc.
Oui, voilà, c'est donc, passionné. On parlait des différents moyens de diffusion, c'est un support en plus, hein, un moyen d'expression supplémentaire, le jeu de rôle grandeur nature. Et d'ailleurs, on parle du perche, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus si percho-centré, parce que quelque part, si on continue...
Percho-centré.
J'aime bien le terme.
J'aime bien, c'est sympa.
On a commencé à étendre notre réseau vers la Normandie, ouais. Et on se propose de restaurer aussi donc, les légendes normandes. Et nos pas nous mènent jusqu'aux Alpes Mancelles cet été, puisqu'on restaure les légendes de Saint-Céneri en ce moment.
D'accord.
Bah, vous savez quoi ? La prochaine fois que mes parents se plaindront que je rentre proche, je leur dirai « Non, désolé, je ne suis pas percho-centré.
» Oui. Non, c'est intéressant ce que tu soulèves, parce que c'est un peu une question qu'on voulait vous poser, c'est comment vous faites pour choisir des mythes ? Parce que il y a plein de mythes, il y a plein de légendes. Comment vous faites pour choisir les mythes que vous comptez ? Car, comme vous l'avez tout à l'heure, le folklore français, il regorge un nombre assez conséquent de mythes et d'histoires. Est-ce qu'il y a des mythes qui ont plus le mérite d'être racontés ou des choses comme ça ? Je ne sais pas. Comment choisissez-vous ?
C'est pas au mérite, c'est plus les lieux qui nous inspirent. Et puis, je parlais tout à l'heure de nos recherches dans les vieux livres, les vieux cahiers percherons qu'on a retrouvés dans les bibliothèques du Perche. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Et donc oui, il y a des histoires qui nous parlent davantage que d'autres. On est un peu comme Alexandre qui rêve de garder son âme d'enfant. Nous, plus c'est étrange, plus c'est bizarre, plus on a envie de raconter ces histoires. On est fous d'imaginaire. Mais sinon, dans un souci après de ne pas faire de jaloux, quand on est arrivé dans le Perche, j'ai eu envie de restaurer des histoires d'un peu... tout le Perche, parce que le Perche, donc, c'est au croisement de plusieurs départements. Il y a l'Eure-et-Loir, il y a l'Orne, il y a le Loir-et-Cher, il y a la Sarthe. Et du coup, on a eu envie de restaurer des histoires qui couvraient tout le territoire percheron et de redonner la voix à ces légendes de manière égalitaire. Comme ça, tout le monde était content. Mais ce n'est pas évident parce que donc, les percherons ont du mal à converger ensemble. Et donc nous, justement, on pensait que par le biais de l'imaginaire, ils pouvaient être enfin joliment unis.
C'est peut-être pas nous qui avons choisi les histoires, ce sont les histoires qui nous ont choisi.
Alors possible, c'est très intéressant.
Parce que finalement, il faut aller les chercher. Et puis, ou alors c'est elles qui nous trouvent. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait quand même aller à la rencontre, Céline l'a fait, des vieux bouquins. Et puis aussi des anciens qui connaissent ces histoires qui se racontaient au coin du feu. Hein. Ça se fait plus du tout maintenant, oui. Hélas. Mais donc finalement, il n'y en a pas tant que ça. C'est pas comme quand on va en Bretagne où alors là, à chaque coin de rue, il y a une légende. mais en fait, finalement, en France, il y en a aussi partout. Mais voilà, faut aller les chercher. C'est vrai qu'il y a des cultures. Bon, la Bretagne, hein, tout le monde, évidemment, a en tête énormément d'histoires, hein, de contes et légendes de Bretagne.
C'est bien conservé, quoi.
Ah ouais,
oui, c'est ça.
Parce qu'il y a une volonté aussi des Bretons.
C'est ça.
Et moi, je suis à moitié breton. Je suis métisse breton-savoyard, moi. Donc...
Breton-savoyard. Ah, mais très ça, séparatiste.
C'est vrai, il y a une volonté de vouloir toujours les faire vivre, etc. Alors que dans le Perche, bon...
Mais c'est ce qui nous intéressait dans le Perche, parce que pour nous, c'était un territoire vierge. Quand on va en Bretagne, il y a déjà plein de conteurs qui ont repris le flambeau des légendes, qui maintiennent tout ce patrimoine bien vivant, alors que dans le Perche, il y avait vraiment quelque chose à faire. Moi, j'ai grandi en Afrique, et en Afrique... déjà, il y avait plein d'histoires extraordinaires, mais de manière générale, quand on voulait défendre un projet, les gens étaient contents qu'on défende un projet parce qu'on apportait une pierre à l'édifice et on ne poussait pas les autres pour construire son propre projet. Oui. Quand je suis arrivée à Paris, c'était déjà bien différent. Tout avait déjà été fait quasiment. Donc quand on voulait faire la lumière sur son projet, il fallait crier plus fort que les autres. Et moi, ça ne me plaisait pas parce que je ne suis pas dans la concurrence, je suis vraiment dans la complémentarité des talents. Et du coup, une fois qu'on est arrivé dans le Perche, alors guidé par le frère d'Éric, nous a dit « Attention, lui, il fait beaucoup de routes. Je viens de traverser une région qui ressemble à la comté du Seigneur des Anneaux. Venez, venez !» On a aimé, on est resté. Et là, on s'est aperçu, en effet, que toutes les légendes étaient parties aux oubliettes. Et pourtant, le Perche n'a rien à envier à la Bretagne. Il y a tout ce qu'il faut. Et surtout qu'il y avait une réelle utilité. Parce que quand on parlait des enfants qui étaient enivrés du Seigneur des Anneaux, d'Harry Potter, de Narnia, nous, on leur a dit « Mais non !» C'est bien ces histoires, mais pensez qu'à deux pas de chez vous, il y a une histoire de dragon, de diable ou de trésor caché. Et là, les enfants, ils nous ont regardé, ils ont dit « Ah bon ? à côté de chez nous. Et oui, et du coup, les merveilleux paysages qui les entouraient sont devenus habités. Et finalement, ils n'avaient plus l'impression de grandir dans un no man's land. Subitement, leur région leur racontait plein de choses. Et c'est devenu, comment dire, pour eux, un univers passionnant à découvrir.
Enfin, c'est génial, en tout cas.
Voilà. Pour continuer cette interview, parce que vous prenez quand même...
toute la place
Non, c'est pas ça. C'est que vous devancez beaucoup de questions.
On prend la parole.
Il y a plein de
questions. Vous devancez beaucoup de questions, là, mais...
Ah, d'accord, pardon.
Non, il n'y a pas de problème, mais... Bon, je vais reprendre sur une question que je te vole, Andréas, mais c'est pas grave. Parce que vous proposez aussi les fabuleux ateliers, justement, mais donc des découvertes créatives et des projets autour de la création et des arts plastiques. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, justement, sur ces fabuleux ateliers ?
Les ateliers. Voilà, moi, j'ai eu l'occasion d'enseigner au collège.
Waouh !
Quand on vous explique que vous allez être affecté au collège, eh bien, comment dire ? C'est un peu la période où les enfants deviennent complètement fous. Le collège. Ils deviennent grands, d'accord. Bon, mais en général, ils sont très très durs à comment dire, à apprivoiser, surtout en cours d'art plastique. Et puis surtout, c'est la période où ils sont un peu en mode à quoi ça sert. Donc, l'une des premières questions que j'avais quand je commençais mon année d'art plastique, c'était à quoi bon, à quoi ça sert les arts plastiques, et surtout, j'ai pas d'idée.
Ah ouais.
Oh non,
ah non, j'ai trop pas d'idée, madame. Non, je peux rien faire, j'ai pas d'idée. Et du coup, eh bien, mon astuce pour qu'ils aient des idées, c'était de leur raconter des histoires. Le portrait de Dorian Gray, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Moi, j'aime bien les histoires obscures, donc ils en avaient pour leur grade. Mais ils aiment bien en général. Et au fur et à mesure que je comptais mes histoires, eh bien, déjà, j'obtenais le silence. Ça, c'est très bien au collège. Et en plus, surtout, comme les histoires, ce sont des images, eh bien, des idées de dessin, ils en avaient à la pelle.
Bah oui.
Et oui, les histoires, ce sont des images. Moi, l'une des premières leçons qu'on m'a données au conservatoire Paul Ducasse, c'est que pour s'affranchir des mots, s'affranchir du texte, même si ce n'est pas du tout mon parti pris, hein. Moi, j'ai une gourmandise des mots incroyable et je pense que les mots ont une énergie propre et qu'au contraire, on ne dit pas un mot par hasard.
Oui,
mais bon, quand même, pour ne pas se perdre dans les textes, l'une des premières leçons que nous a donné notre professeur de conte à l'époque, c'est surtout, avant même de dire un texte, raconter un tableau. Vous divisez votre histoire en tableaux, vous voyez des images, la chambre de Barbe Bleue, la forêt obscure du petit chaperon rouge, et vous vous y promenez, et vous me racontez tout ce que vous voyez. Et en fait, même si on va faire un test, par exemple, là je dis juste le mot « chocolat », c'est pas une histoire, mais chocolat. Et je suis sûre que dans vos têtes, vous avez tous une image qui apparaît parce que chocolat, ça évoque déjà plein de choses. C'est une Madeleine de Proust. Et il y a des mots-clés comme ça qu'on peut prononcer dans une histoire qui vont faire que tout de suite, les gens ont des images dans leur tête. Donc une histoire, ça va être déjà à mi-chemin entre l'histoire et entre l'histoire qui est contée et l'imaginaire du public. Et chacun aura ses propres images en fonction de son vécu. Donc c'est énorme parce qu'on va raconter une histoire et à la fin de l'histoire, chacun aura entendu une histoire différente.
Puisqu'il
y a 50% de l'histoire, c'est hyper interactif, il y a 50% de l'histoire qui est construit par notre propre vécu et les propres images qu'on a, nous, à l'intérieur de nous, nos émotions. Je dis, la princesse est belle, très très belle, mais je ne la décris pas. Et chacun, dans votre tête, a l'image de la plus belle femme du monde, mais pour tout le monde, elle est différente. Blonde, brune, grande, menue, plus en chair. Ça, chacun se raconte sa propre histoire. Voilà.
C'est vachement intéressant comme.
Ouais,
moi, ça m'inspire pas mal parce que je fais pas mal de chants. Je vais peut-être me lancer dans l'opéra un jour, on verra, on sait pas trop. Donc, bon, les textes, c'est assez important parce qu'on joue des personnages, donc ça permet de se promener dans d'imaginer ce que vivent les personnages. Je pense que c'est un peu la même idée, mais là, on joue le rôle, mais c'est vrai que c'est assez inspirant comme. Tout ce discours-là, ça m'a inspiré beaucoup.
Mais la narration, c'est passionnant parce que justement aussi, il y a un autre exercice qu'on nous faisait faire en formation et que j'ai trouvé génial, c'est que c'est de changer de narrateur. C'est-à-dire qu'on ne va pas raconter l'histoire du point de vue du gentil, on va la raconter du point de vue du méchant. Et là, justement, on sort complètement de la dimension manichéenne de l'histoire. Hein. C'est le pauvre loup, justement. Ah oui, il avait faim, il aurait bien mangé le petit chaperon rouge. C'est pas sympa de lui avoir volé son dîner. Et il y a des choses comme ça.
C'est pas très gentil. Moi, d'être méchant,
je sais pas.
Il y a des exercices où, quand on compte en duo, on va chercher à se voler la parole. Sur le principe des gens qui se coupent tout le temps la parole. Ou alors, on va raconter en faisant un procès au personnage. Et pourquoi as-tu fait ça, loup, grand méchant? Comment as-tu osé rentrer chez la grand-mère sans frapper? Enfin, voilà. Et du coup, ça change complètement l'énergie de l'histoire. Et c'est ça emmène les gens dans quelque chose de différent.
C'est hyper intéressant.
C'est super. Les principes de narration, les jeux narratifs, c'est
Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie dans la narration. Ouais. Le texte porte beaucoup, beaucoup de choses on n'y pense pas, mais il y a trop de choses dans un texte. C'est hyper important.
Et oui, et la différence, et puis après je te rends la parole parce que je sens que je m'emporte, mais la différence entre un texte écrit et aussi un texte parlé, c'est énorme. C'est-à-dire que très souvent, moi, je passe par l'écrit parce que, comme je disais tout à l'heure, j'ai cette gourmandise des mots, j'ai besoin de chercher, d'aller trifouiller dans les couches sédimentaires orales. j'écris. Et puis hop, j'essaie de passer à l'oral. Et au moment où je passe à l'oral, alors que j'étais sûre de mon texte parce que je l'avais ciselé comme une orfèvrerie de niveau 1, eh bien, les mots que j'avais choisis se font bousculer par d'autres. Et dans ma bouche, ça se mélange et hop, c'est un autre mot qui sort. Et dans le mot qui est sorti, il y avait tellement d'énergie et tellement de... Il s'est imposé par rapport à l'autre, comme s'il y avait un combat entre les mots. Celui-là était plus juste que l'autre et il a pris le dessus. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et il y a des conteurs qui racontent la même histoire depuis 25 ans et ils la racontent jamais pareil. Enfin... Elle évolue avec le temps.
C'est super. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On a le temps avance, on a plein de questions, mais beaucoup de choses ont déjà été répondues.
Je vous dis quand même le mythe de l'Happy Hour, quand est-ce qu'on raconte cette histoire?
Le mythe de l'Happy Hour, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, l'histoire de l'apéro, une vino verita. Voilà. Mais oui, je suis d'accord.
À quelle heure l'Happy Hour?
Exactement. Bon, alors je vous propose qu'on fasse une petite pause conte. Est-ce que vous nous parlez un petit peu de ce conte dont vous nous avez parlé, qui est la butte de la Malherbe, je ne me trompe pas?
Tu t'es trompé, littéralement.
Je me suis trompé.
On ne va pas y arriver.
Ça se trouve, c'est une histoire qui existe, hein. Nous, on la connaît pas. La butte de la Malherbe.
Vous allez nous la raconter, l'histoire de la butte de la Malherbe.
C'est quoi, du coup, le nom?
C'est la butte Malbrun.
Malbrun, ouais, bon, tant pis. C'est pas du Perche.
La butte Malbrun, eh bien, vous devriez aller vous promener dans le Perche, car c'est là, dit-on, que le diable a caché son trésor. C'est un trésor tellement immense, tellement grandiose, que c'est impossible d'en voir les limites. C'est des monceaux d'or, des diamants qui brillent à l'infini, des constellations de saphirs, de rubis. Mais voilà. Si vous tentez de dérober son trésor au diable, il vous le fera payer et il dérobera votre âme. Eh bien, que n'est-on pas capable de faire par amour? Jean était fou amoureux, mais il était trop pauvre pour prétendre à sa promise. Alors, comme il était dit que le soir de Noël, la butte Malbrun s'ouvrait en révélant le trésor du diable, il a tenté sa chance. Je crois que vous pouvez lancer l'extrait.
Eh bien, c'est parti.
Jamais il ne dort, jamais il ne sort, mais la nuit de Noël peut lui jeter un sort. Jamais il ne dort, jamais il ne sort, mais la nuit de Noël peut lui jeter un sort. Deux jours plus tard, la nuit est tombée sur la campagne gelée. Jean arpente le flanc de la butte Malbrun avec sur son épaule un énorme sac à patates qu'il compte bien remplir jusqu'à ras-bord. Autour de lui, tout est immobile. On approche de minuit, on est la nuit de Noël et la messe touche bientôt à sa fin. Et si c'était vrai, la vieille légende cachait-elle une réalité? Il allait bientôt le savoir. Le premier coup de cloche brise le silence glacé. Sous les pieds de Jean, la terre a tremblé. Au deuxième coup de cloche, les flancs de la butte Malbrun s'ouvrent avec fracas. Et ce que Jean voit apparaître devant lui dépasse ses rêves les plus fous. Le trésor du diable brille comme 1000 soleils. Tel un papillon de nuit, Jean se rue vers la lumière. Jean saisit par poignées tout ce qui se trouve à sa portée. Des émeraudes, des saphirs, des rubis. Des lingots d'or, des couronnes, des colliers fabuleux, des talons d'argent, des bracelets étincelants,
c'est à moi,
des millions de diamants. Jean a les épaules en feu, le sac commence à faire son poids, mais il reste de la place.
Ouais.
Tasse, tasse, mais en plus, encore plus de trésors. Jean perd la tête, perd le compte. Combien de coups de cloche ont-ils déjà retenti?
7, 10, 13.
Vite, il faut partir. Jean se rue vers la sortie. Non, c'est trop bête. Il faut rester.
Oh, allez.
Jean rebrousse chemin. Mais non, il faut partir. Pourtant, Jean ne fait pas un pas. Allez, encore quelques ducats.
Vite.
Là-bas, il y en a tout un tas. Les murs de la caverne tremblent et la terre gronde. D'étranges gargouillis semblent remonter du ventre de la colline. Soudain, la lumière des étoiles se voile et l'écho du dernier coup de cloche s'étouffe dans le lointain. Trop tard. Il est trop tard. La colline se referme. La butte Malbrun avale tout cru le pauvre Jean et son butin.
Oula, oula, oula!
Et on est de retour dans la Happy Hour. Il est actuellement 21h43. On est la Happy Hour, Radio Alpa, la meilleure radio du Mans.
Évidemment.
Et oui. Sur 7.3 aussi, que je n'ai pas dit. Alors on va passer sur.
Il te reste encore du chemin avant de devenir animateur.
Oui, bah c'est bon, c'est bon. Et oui, on va passer sur une petite partie qu'on fait à chaque interview. On va poser des questions. C'est des questions rapides. Il faut y répondre dans. Allez, le moins de mots possible. 5 mots maximum.
Eric, à toi l'honneur cette fois.
Ah, oui. Eh ben, je te laisse commencer, Théo.
Alors, bah, on va commencer avec vos mythes préférés. Et moi, je vous demande votre mythe du moment. Le meilleur mythe de votre actualité.
Oh, oh là là, c'est Cthulhu.
Cthulhu ?
L'appel de Cthulhu, Lovecraft.
Ok.
Ah, alors, ça, moi, je serais bien sur les mythes indiens. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il laisse entendre. Comment dire ? Il parle pour moi de la théorie des anciens astronautes. Et ça me passionne.
D'accord.
Vous la connaissez, la théorie des anciens astronautes ?
Ouais.
Moi, je la connais pas. J'ai à me renseigner après l'émission, du coup. Moi, si on en parle maintenant, on finira l'émission en retard.
D'accord, voilà. Mais c'est passionnant. On voit les dieux hindous ou hindous, indiens, sur des machines volantes et ça laisse entendre plein de choses.
Moi, c'est Cthulhu parce que je fais des parties de jeux de rôle en ce moment là avec des amis. C'est incroyable.
Ouais, on masterise aussi du Cthulhu, c'est génial. C'est génial à masteriser.
Mais tu verras, il y a d'autres trucs qui arrivent là. Tu connais Blackwood ?
C'était censé être rapide. Allez, hop.
Alors, le mythe de votre enfance.
Arthur, le roi.
Le roi Arthur, génial.
Ah oui, tu me l'as piqué celui-là. Moi, comme j'ai grandi en Afrique, je veux dire que ce sont des mythes animistes sur les masques sacrés dans la forêt.
Ah génial, super.
Bon, du coup, dans la continuité, le mythe à raconter à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, arrière-arrière-petits-descendants.
Arthur, le roi.
Mais surtout que notre fils s'appelle Arthur, donc évidemment, il faut absolument qu'on lui raconte.
Oh, Bilbo le Hobbit, moi, je lui dirai, je pense, demain.
Demain.
Quand il aura 6 ans.
Oh, il a 6
ans
pas, demain,
c'est pas forcément un mythe, mais moi, je lui raconterai bien à différents âges de sa vie, le petit prince de Saint-Exupéry.
Ah, c'est génial.
Parce que, en fait, moi, je l'ai lu à tous les âges de ma vie jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque fois, je vois quelque chose de différent. C'est vraiment complètement initiatique. Et on n'entend pas la même histoire à chaque fois, j'adore.
Plus on grandit, plus on grandit.
Je pense mon grand-père qui est dans la même situation. Il est fan du Petit Prince depuis très très longtemps. Et c'est pareil, il lit l'histoire 12 fois par heure, je pense.
Comment s'appelle ton grand-père ?
Il s'appelle Jean-Louis.
Eh bien, bonjour Jean-Louis et bravo, très bon choix.
Et dernière petite question sur les mythes. Donc, ce serait un personnage ou une histoire en fait, d'aujourd'hui qui mériterait sa légende.
Ah. Ouh. Oh là, ça se regarde.
Ah non, c'est justement les mythes sont inventés. Nous, dans le conte du manoir aux histoires que vous avez peut-être vu, parce que je vois que vous avez bien fait vos recherches, on raconte l'histoire de Gaston Mirliton, qui est un enfant dont le livre de conte a été finalement enterré dans la forêt. Et ce livre s'est mis à pousser et il a poussé en forme de manoir. Donc le manoir aux histoires, en fait, c'est aussi une plante. Hein. Et en fait, quand on parle de graines d'histoire, et ben cet arbre manoir finalement sème ses graines de par le monde. Et à l'automne, les feuilles de l'arbre tombent et vont. Ce sont des pages d'histoire en fait. Ce sont des vraies feuilles, des feuilles de livres, des feuilles d'arbre. Et elles volent de par le monde pour transmettre les histoires. Et le roi du manoir, c'est le docteur Affabulatus qui invente les histoires. Affabulatus qui raconte les histoires du futur. Et du coup, si on doit inventer des histoires pour le futur, eh bien, je pense qu'il faut inventer le monde tel qu'on aimerait qu'il soit, parce que les histoires ont aussi le pouvoir de s'incarner dans la réalité.
Oui, ouais, c'est une super. On pensait pas aux réponses si construites, mais moi j'adore la réponse. Hein. Bon, on va passer au jeu de mots là, c'est vraiment.
Là, c'est l'interview, voilà.
C'est ça, c'est vraiment. Oui, il y a bleu ou rouge. Tel ou tel. Vas-y Théo, je te laisse commencer.
Est-ce que vous préférez plutôt Fée Viviane ou Fée Morgane ?
Morgane.
Viviane pour moi.
Ah bah d'accord, comme ça on sera deux. Le bien et le mal.
Ouais, non, pourquoi,
non mais elle est ambiguë, Morgane, c'est ça qui est bien.
Mmh. Oui, oui.
En même temps, Viviane, c'est bien elle qui
Elle est, parfois confondue hein, dans certains mythes. Hein.
Ouais,
dans le film Excalibur là, de John Boorman, Morgane mélange un peu avec, avec Viviane justement. Parce qu'elle
mais c'est Morgane qui ovale son retour.
Oui, oui.
Moi j'aime bien et le Val sans retour, comme ça on peut emmener son amant au Val sans retour et on teste sa fidélité.
Ne nous lancez pas sur les légendes arthuriennes.
On voit ça.
Alors bon, moi je dirais la prochaine. Plutôt légende ou légende?
Légende ou légende?
Oui.
Les deux.
Les
c'est indissociable. Nous on a raconté la légende du Marcou qui est le guérisseur du Perche et un jour. Alors le Marcou, il faut savoir que c'est un septième fils d'une fratrie de sept garçons consécutifs. Et un jour on a voulu faire soigner notre enfant dans le Perche parce qu'il avait des problèmes de colique du nourrisson, le pauvre chéri. Et on allait voir un magnétiseur parce que nous on aime bien tenter des trucs. Et en fait c'était un authentique Marcou. Il fallait le faire à l'ère d'aujourd'hui. C'est un septième fils d'une fratrie de sept garçons consécutifs et il soigne les gens avec ses mains et tout le monde dit que c'est révolutionnaire, que ça marche très très bien. Donc comme quoi la légende rejoint la réalité,
mystère,
la réalité fusionne avec le mythe.
C'est fascinant.
Mais
c'est
septième fascinant. Fils de septième fils, c'est pas... Ah, j'avais lu un livre avec ça, le Balanceur Soleur, je sais plus le nom.
Ça me dit quelque chose, c'est
oui,
ça.
Oui, c'est... Ah, j'ai lu le livre. Ah, je sais plus.
Mais pendant qu'on pose des questions, tu veux avec ça.
Exactement.
Alors, bah, toi,
j'ai une question plutôt séléniste ou plutôt un bon synopsis?
Ah, oui, je suis un très bon synopsis. Je suis ravie que tu le constates. Mais enfin... Sélénice fait des synopsis aussi, elle est un synopsis, donc voilà. Non, je te suis.
Bah du coup, moi j'ai la question un peu similaire, plutôt Elric ou un conte féerique?
Plutôt Elric ou un conte féerique? Je crois qu'en fait, il fusionne, lui, avec tout ça.
Ça fusionne aussi, du coup.
Tu sais, on leur fait des réponses. C'est quoi, c'est des réponses de Normand, ni oui, ni non? Oui, les deux, ensemble, bien sûr, pas de problème.
C'est super chouron, on s'y accommodera.
On ne tranche pas.
Il y a la fée Eric, mais ça, c'est autre chose.
La fée Eric. Oh non, je pensais à ça, on n'y a pas pensé à celle-là.
Et alors, vous êtes plutôt Ménestrel ou plutôt Jacques Brel?
Ah...
Oh là là, Ménestrel, je crois. Excuse-moi, je réponds pour toi, parce que si j'essaie d'écouter du Jacques Brel, il me laisse pas faire. Je pensais à Cabrel. Non, Jacques Brel, il a...
Oh là 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 là. Oh, sortez là. Non, faites faire, faites sortir cette femme.
Ce soir, ça veut vraiment
pas. Excuse-moi, j'étais ailleurs. Non, Brel, oui, à fond.
Bah, Ménestrel, parce que pour prétendre être Jacques Brel, là, je serais trop, trop présomptueux.
Non, mais
là, c'est top niveau. La chanson La Quête, il l'a enregistrée en une prise, qui a été filmée d'ailleurs, voilà, sur ceux qui sont curieux d'aller voir ça, elle a été filmée, donc on peut la voir sur YouTube là, quand il a enregistré la chanson La Quête en une prise, mais il faut dire qu'il avait beaucoup chanté en jouant l'homme de la Mancha pendant je ne sais combien de temps avant, donc il la connaissait, il la vivait, faut le voir, hein, allez voir, vraiment, Jacques Brel chantait La Quête sur YouTube lors de l'enregistrement, c'est extraordinaire.
C'est génial. Alors, je vous propose aussi, ça peut se rapprocher un peu personnellement, à vous de voir, chacun se dit, plutôt troubadour ou gros balourd.
Bah, on a bien fait nos gros balourds des fois.
Balourd. Bah, on s'est trouvé des personnages. Moi, je suis gros bidours, c'est elle est Boudina.
Voilà. En fait, on s'est dit que si on se lançait dans le spectacle pour enfants, on ferait gros bidours, c'est Boudina. Et comme ça, on peut manger tout ce qu'on veut, ça sera dans les personnages.
Mais nous, ce qui est bien, c'est qu'en vieillissant, comme on est des conteurs, plus on sera vieux et gros et un peu rigolo, bah, plus finalement on sera dans notre personnage.
Et mais surtout que tout est dans le costume. Nous, à force de faire des fêtes médiévales, on s'aperçoit que justement, le rôle du tavernier, quand il est tenu par quelqu'un qui est bien en chair et qui est gros balourd, hein, bah, il est plus drôle que celui qui est beau gosse à la hollywoodienne.
Ah bah tous les gens qui mettent un costume médiéval ou autre sont beaux.
Le costume fait le larron.
Ah ouais.
Bah, comme on disait tout à l'heure, les gens ont les jambes, on ne peut pas dissocier du coup.
Non.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue? Bah
alors moi,
on continue.
Moi, j'aime bien les dernières questions.
Vas-y, on continue.
Sont rigolotes. Non, parce que moi j'avais après, justement, parlant de manger, plutôt le perche légendaire ou plutôt une pêche légendaire?
Moi j'ai envie de dire, bah, nous on va à la pêche aux légendes, hein. Ouais. Donc
pêche
ça fonctionne,
aussi,
hein,
oui.
Pêche aux légendes. Et d'ailleurs ce soir on va retourner la question, en allant à la pêche aux légendes au Mans, parce qu'on est venu pour ça ce soir, on ne vous a pas dit en fait, est-ce que vous avez des légendes ici que vous connaissez et qu'on pourrait ramener de notre pêche de ce soir?
Alors moi je ne suis pas
trop d'ici,
mais j'ai des légendes du l'Est de la France, la Vouivre,
ah oui, ouais. L'Est de la France, où il y a de quoi faire.
Après, n'hésitez pas à l'envoyer sur l'Instagram si vous avez des légendes
chez vous. On est preneurs si vous avez des légendes,
Facebook.
Comme ça on pourra commencer notre travail sur le Mans.
Et oui, bah alors. Et bah, je peux la dernière question du coup ?
Ouais, fais des petites questions.
Alors, plutôt Medieval Fantasy ou Vacances en Malaisie ?
Mais c'est impossible de choisir.
Oui, moi, j'ai fait. Moi, j'ai été en Malaisie déjà. Hein. Donc,
mais sinon, on va Medieval en Malaisie. On va dans la Malaisie médiévale fantastique. Oui. C'est. Voilà, il faut inventer les mythes du futur. La Malaisie médiévale fantastique, pourquoi pas. De toute façon, on voit, hein, Netflix se fait plein de séries en ce moment où on est dans des univers médiévaux, mais c'est hyper cosmopolite. Hein,
C'est surtout que quand on lit les histoires des légendes, des mythologies indiennes, etc.
Attention,
c'est de la science-fiction. Hein. Le Bhagavad Gita, etc. C'est de la science-fiction, hein, les contes, les légendes en Malaisie.
Ah oui, ça,
Alexandre, bref, tout dans la parole. Alors,
je suis passionné de parc d'attractions, c'est vraiment ma passion. D'où un truc en Malaisie qui est incroyable, c'est qu'au milieu de la forêt, tout ça, il y a une reproduction de parc d'attractions basée sur Colmar.
Ah.
Non. En Malaisie. En Malaisie.
Incroyable. Voilà. Alors ça, il faut qu'on aille voir ça. Vraiment.
C'est quelque chose. Et du coup, voilà, je ne sais plus si c'est en Malaisie ou Indonésie, mais c'est un de ces pays-là. Il me semble que c'est Malaisie parce que, mais je suis plus très sûr, mais c'est vraiment exceptionnel. C'est incroyable.
Et tu as eu l'occasion d'y aller ou alors c'était dans tes recherches sur les parcs d'attractions
Juste mes recherches sur les parcs d'attractions. Et puis je suis tombé sur ce machin. Je me suis dit, bah oui, d'accord, ok.
Est-ce que vous avez vu que Disney vient de sortir son premier parc d'attractions de jeux de rôle grandeur nature sur le thème de Star Wars?
Oui,
j'ai pas vu non plus.
C'est une actu aussi. Allez voir ça parce que ça a l'air extraordinaire.
C'est vrai que ça a l'air extraordinaire. Ça va arriver en France dans 2 ans.
Non, en fait, Rustic existe déjà avant, donc en fait, ils nous ont copié.
Bien sûr, évidemment.
Nous, c'était pas Star Wars, mais enfin, nous.
C'est sûr que là, il y aura les moyens de Disney, ça va être un truc énorme, mais bon, faudra aller en Californie, parce que je crois que c'est là-bas que ça se passe.
Alors, dans 2 ans, il y a une reproduction qui ouvre, je sais pas si ça sera autant ouvert vers l'univers du jeu de rôle que ça l'est en Californie. C'est en Floride.
C'est en Floride.
Mais voilà. Bon, en France, il y aura quand même un parc d'ici 2 ans.
Ah oui.
Un parc de jeux de rôle grandeur nature
Non, alors basé Star Wars. Après, je sais pas si ça va être autant dans l'immersion que les autres.
Ouais. Bon, alors c'est la fin, malheureusement, de cette interview jeu de mots.
Oh non.
Ouais, je sais, c'est toujours cet effet-là. Bon, on va donner vos réseaux sociaux quand même. Déjà le site internet, lemanoirauxhistoires.com avec des traits d'union. Votre Spotify, Deezer, Le Manoir aux Histoires, tout détaché. Même chose sur YouTube et Facebook. Vous avez un petit message à passer aussi pour le futur de votre projet par rapport à peut-être un lieu à aménager. Donc je vous laisse le micro avant la fin de cette interview.
Un lieu à aménager, non. Alors c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Nous, on aime bien notre côté nomade en ce moment, ce qui nous permet justement d'aller restaurer des légendes un peu partout. D'ailleurs, le projet initial s'appelait Chantefable de nos contrées. Et on avait très envie de s'étendre vers d'autres régions. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce qu'on a commencé à faire en allant plus vers la Normandie.
Est-ce qu'on passerait pas sur une petite prestation live pour terminer l'émission?
Je pense. Que...
Et bah, puis, pourquoi pas.
Ah oui, mais alors attendez, parce que faut j'accorde...
Ah là là. Bon, les derniers jeux de mots.
Vous en faites pas pendant ce temps. Loutro, les bisous, c'est parti.
Non, attends, Alexandre, les jeux de mots, on les écoute tous quand même.
J'ai mon dernier jeu de mots que j'aime bien, mais avec plutôt Donjons et Dragons ou Donjons et Houlon.
Ça me rappelle. Donjons et Houlon, ça me rappelle un certain événement.
Donjons et Houlon.
Alors, Donjons et Houlon, l'histoire, c'est que je suis aussi président d'un. D'une association de jeux de société, j'étais censé organiser un événement qui s'appelait Donjons et Houblons et qui était totalement tiré d'un nom que Théo m'avait trouvé au Schnapps un moment. Voilà.
D'accord, ça fait penser à une chanson de Naël Band qui fait la bière du donjon, c'est nous qui la buvâtes.
Ah non, pas du tout.
Buvons la bière du donjon.
Ah oui, 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 je crois que je la connais.
C'est bien une chanson à boire, ça.
C'est pas mal. C'est vrai qu'à l'UNSIM, on n'est pas très inspiré. Hein.
Bon, on a les pattes, c'est bien.
Ouais, c'est ça, on a les pattes à volonté.
Ah, on entend une. Petite musique douce.
Alors, cette chanson fait partie d'une légende que l'on raconte où l'humanité est devenue éternelle.
Ah, sympa ça.
Au départ, c'est super sympa. Après, c'est super casse-pied parce qu'en fait, personne ne veut mourir. Donc, finalement, mais ça n'empêche pas aux gens de devenir complètement gaga. Donc, les gens font complètement n'importe quoi. Et les siècles passent et la mort ne veut toujours pas intervenir pour nous débarrasser de tous ces fous qui se baladent sur la Terre.
Ça, c'est moins cool.
Donc, finalement, les médecins font tout pour achever leurs patients, ils n'y arrivent pas. L'humanité devient tellement, comment dire, les humains deviennent tellement nombreux qu'on meurt de faim. Mais non, on ne meurt pas puisqu'on ne peut pas mourir. Les gens font la guerre, mais on ne meurt pas. Donc comment savoir qui a gagné la guerre? Ça devient vraiment très compliqué. Mais bon, on ne raconte pas la fin, mais du coup, on chante cette chanson parce qu'on est quand même content. C'est parti.
Et c'est en live sur Instagram.
Aux quatre coins du monde, il n'y a plus de raison de craindre l'outre-tombe ou de faire attention. On va vivre à tout jamais, trinquer, chanter, danser. On va risquer l'insensé et puis recommencer. Quand on est éternel, seul l'ennui est mortel. Pour ce qui est travailler, ne soyons guère pressés. Surtout remettons à demain tout ce qui nous pèse bien. Allons vite voir les copains et chantons ce refrain. Si le temps c'est vraiment de l'argent, il n'y a vraiment plus de quoi s'en faire. On est tous millionnaires, centenaires et bientôt millénaires. Nous ferons le tour de la terre et même de l'univers. Puisqu'il n'y a plus d'enfer, plus besoin d'être exemplaire. Je dirais même, mon cher, soyons tout le contraire. Nous pêcherons à l'unisson et pas que du poisson. Maintenant notre seule ambition, c'est la récréation. La la la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. La la la. Profitez, profitez de la vie et surtout n'ayez aucune limite. Merci beaucoup.
C'était génial. Et surtout, profitez de la vie, exactement. Et n'hésitez pas à nous écouter encore une fois la semaine prochaine. Merci à tous de votre écoute. Et
bisous à la grand-mère d'Andréas.
Et des gros bisous à la grand-mère d'Andréas.
Des gros bisous
à Mamie Claire.
Et des bisous à Mamie Claire.
Restez des enfants.
Comment on dit des bisous dans le perche déjà? Des mignons.
Des mignons. Plein, mignons.
Plein de mignons à tous.
Des mignons. Mignons à tous.
Je voudrais rappeler que l'alcool est consommé avec modération. À une règle que tout le monde respecte, évidemment.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir.